Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Jérémy Besset,
Tania Tsikounas.
Bonjour, bonsoir. C'est à chaque fois la même chose. L'enveloppe cartonnée arrive au bureau, on l'ouvre et on entend des O, des A et autres exclamations d'admiration dans le bureau de VMDN. Car chaque ouvrage illustré par Benjamin Lacombe est un ravissement. Le dernier en date ne fait pas exception. Il nous entraîne dans un monde peuplé de créatures fascinantes, parfois terrifiantes, souvent malicieuses, et nous ouvre les portes, comme à l'accoutumée, d'un univers rempli d'imaginaire, d'émotions et de poésie. Cette fois, c'est au Japon que ce voyage littéraire et graphique nous emmène. Histoire de fantômes du Japon, d'après un récit de Lafcadio Hearn, traduit en français par Marc Loger et illustré par Benjamin Lacombe, est paru dans la collection Métamorphose des éditions Soleil, et vous m'en direz des nouvelles.
Cette émission est une rediffusion.
Bonjour Benjamin Lacombe.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est vrai que vous êtes un pilier de cette collection Métamorphose, pour laquelle vous avez déjà illustré de nombreux textes très forts. Les contes macabres d'Edgar Allan Poe, le Carmen de Mary May, Alice au Pays des Merveilles, Alice de l'autre côté du miroir de Lewis Carroll. Qu'est-ce qui vous fait choisir tel ou tel texte?
Vous avez oublié Notre-Dame de Paris, de
oui,
Hugo,
entre autres. Voilà. Bah oui.
qu'est-ce qui me fait choisir tel... C'est vraiment des goûts. C'est des affinités, des choses qui me relient au texte ou à l'univers graphique. Et c'est ça en fait qui va me faire aller plus vers un texte qu'un autre.
Alors comment est-ce que vous avez rencontré Lafcadio Hearn?
Alors je l'ai rencontré après avoir cherché d'abord des choses autour des yokai. C'est vrai qu'il est
donc difficile. Donc les yokai, c'est les fantômes japonais en l'occurrence.
On peut le résumer comme
voilà.
Ça, mais c'est
on
un petit peu
plus compliqué. On va en parler en détail dans un instant.
Surtout voilà, on a un spécialiste avec nous, donc on va pouvoir avoir des choses beaucoup plus précises. Mais oui, il y a très peu d'écrits. C'était beaucoup de choses dites à l'oral ou dans des jeux. Et c'est vrai que parmi les écrits que j'ai trouvés, j'ai trouvé ceux de Lafcadio Hearn, et j'ai vraiment aimé aussi sa façon de raconter. Puis c'est encore une fois une littérature. Moi, je suis très friand de littérature du 19e ou tout début 20e, avec cette écriture. Et voilà, il ne faisait pas défaut. J'ai beaucoup aimé aussi sa façon de raconter, et aussi le fait que ce soit un étranger qui s'intéresse comme ça à la culture japonaise et qui l'ait fait avec tant de goût et de d'intelligence qu'il a été vraiment intronisé au Japon, accueilli et il est même devenu japonais.
Oui, parce que c'est un journaliste et écrivain irlandais. Il a un prénom d'origine grecque parce qu'il est né dans une île grecque, une île des îles Ioniennes. Oui. Sa mère était grecque, son père irlandais. Il a grandi à Dublin. Il est parti aux États-Unis. Il est devenu journaliste sur place. Alors il a écrit sur un tas de sujets extrêmement divers et variés, à la fois des articles de presse, mais aussi des livres documents, mais aussi des romans. Enfin, il s'est vraiment intéressé
à tout.
Il s'est installé au Japon d'abord en tant que journaliste, ensuite il s'est mis à enseigner la littérature là-bas. Enfin, c'est un esprit curieux, et c'est aussi un passeur, quoi. C'est ça aussi
c'est ça.
Qui nous a intéressé.
C'est ça qui m'a intéressé. Il a vraiment fait ce qu'ont pu faire les Grimm en leur temps avec nos contes traditionnels européens, avec les histoires du Japon. Là, il y en a quelques-unes, en fait, que j'ai sélectionnées, mais il a écrit plus d'une centaine, en fait.
Comment les avez-vous choisis, justement? C'est l'intérêt graphique qu'elle dégageait?
C'était aussi l'intérêt de l'histoire en elle-même, vraiment la poésie de l'histoire. Il fallait aussi qu'il y ait quelque chose d'assez cohérent, en fait. Il y avait certains contes qui n'allaient pas avec d'autres. Il fallait qu'on ait, voilà, que ce soit un voyage, en fait, le livre.
Alors, Mathias Hayek nous a rejoint. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes maître de conférence en études japonaises à l'Université Paris Diderot, spécialisé dans l'histoire et la sociologie des croyances japonaises. Est-ce que vous avez lu Lafcadio Hearn?
Oui, tout à fait.
Et est-ce que ces écrits, pour le chercheur que vous êtes, sont de bonnes sources, de bonnes références pour comprendre la culture japonaise en général et singulièrement les fantômes du Japon?
Alors, ce sont indéniablement une bonne introduction à ces questions, tout simplement parce que Hearn est allé puiser à différentes sources lui-même, qu'il a arrangées, qu'il a reformulées, et essentiellement, en fait, il a deux sources principales, soit des sources anciennes qui l'ont été finalement racontées par son épouse, Setsu, donc puisqu'il s'est marié peu de temps après son arrivée au Japon avec une fille d'une maison de samouraï, de la ville de Matsue, donc où il s'était établi pour enseigner. Donc Hearn était à moitié aveugle, hein, donc il lui manquait un œil, enfin il avait un œil défaillant, et en plus il était très très myope. Et donc il lisait tant bien que mal, mais il ne lisait pas vraiment le japonais, il n'arrivait pas vraiment à déchiffrer lui-même la langue japonaise écrite, mais son épouse, donc d'une famille de samouraï, donc éduquée, avait, elle, accès à des petites histoires, hein, ça faisait partie un peu de son trousseau, des histoires histoires médiévales, hein, des petits contes qu'elle lui résumait, qu'il reformulait ensuite. Et par ailleurs, il s'est aussi beaucoup inspiré de légendes populaires de l'époque qu'il a pu entendre, recueillir, là aussi, sans doute par le truchement de son épouse.
Mais alors, les yokai, donc c'est un mot japonais qu'on a déjà employé, est-ce qu'on peut complètement le traduire en français par le mot fantôme, ou c'est un petit peu plus complexe, un petit peu plus vaste que ça?
Alors, j'ai envie de dire oui et non. Ah, oui et non.
Parce que le mot a évolué.
D'abord parce que le mot yokai est un peu une création moderne, c'est-à-dire c'est un mot scientifique hein, créé par les anthropologues et les ethnologues au XXe siècle pour essayer de regrouper un certain nombre d'entités présentes dans le folklore. Hein. Et la question de l'inclusion ou non des fantômes à ce groupe des yokai continue de faire débat. Hein. Un des premiers à avoir utilisé ce terme dans une perspective ethnologique lui excluait le fantôme, c'est-à-dire le revenant, hein, l'esprit du mort. Mais une définition plus large peut très bien les englober. La question de la traduction en français est très intéressante parce que, personnellement, le mot, si je devais utiliser un mot pour traduire yokai, ça serait le mot lutin. Ah simplement, oui. Ce mot aujourd'hui dans la langue française n'a plus le sens qu'il avait, par exemple, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle.
Oui, c'est vrai que lutin, on pense à un farfadet très sympathique, un peu sautillant, un peu malicieux. Il y a ça dans le recueil, mais il n'y a pas que ça.
Absolument. Mais le mot lutin, si vous ouvrez l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, c'est pas juste parce que je viens de l'université Paris Diderot que je peux en parler.
Mais ça tombe.
L'article lutin s'ouvre en disant, en somme, lutin également appelé spectre ou revenant. Hein, et s'ensuit une liste très longue de toutes les entités qui hantent les rues des grandes villes de France la nuit. Des entités dont nous avons totalement oublié l'existence. Si je vous parle du moine bourru, si vous êtes parisien, je ne sais pas si vous savez de quoi il est question.
Ça me dit rien, mais je suis pas de Paris.
Voilà. Ou la Malbette à Toulouse, le Mulet au Dé à Tours, je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose. Eh bien, tout cela, ce sont des lutins ou des fantômes, d'après les encyclopédistes.
Oui, les fantômes, en tout cas, les lutins, ça fait partie presque de la vie quotidienne au Japon. Mathias Hayek, on a presque l'impression qu'il y a une forme de, par rapport à ce que nous vivons, nous, en Occident, une forme presque de banalisation du rapport de l'individu à la mort.
En tout cas, il y a une culture hein, de ces créatures surhumaines ou non humaines qui est toujours présente aujourd'hui dans la culture populaire comme produit. Ça, c'est évident. La banalisation du rapport à la mort est peut-être plus délicate. Ça n'est pas si banal que cela. Et les yokai, comme vous l'avez dit, ne se résument pas aux esprits des morts, mais également couvrent tout un tas d'autres entités.
Alors, on va se plonger dans l'un des 10 récits contenus dans le livre de Benjamin Lacombe, Yukiona, la femme de la neige, qui met en scène Minokichi, un bûcheron, et Oyuki, une jeune fille très belle qu'il a épousée et qui lui a donné 10 enfants. Nous sommes page 97 du livre.
Un soir, les enfants couchés, Oyuki cousait près d'une lampe dont la lumière blanche inondait son visage. Minokichi la contempla longuement et lui dit enfin: en vous voyant ainsi, le visage baigné par cette douce clarté, je me souviens d'une aventure bizarre qui m'advint lorsque j'étais un gamin de 18 ans. Il s'agit d'une femme qui était aussi belle que vous. Elle vous ressemblait même étonnamment. Sans lever les yeux de son ouvrage, Oyuki répondit: « Parlez-moi d'elle, où l'avez-vous vue ?» Minokichi lui raconta alors la nuit terrible passée dans la hutte du bachoteur. Il lui décrivit la femme en blanc, qui s'était penchée au-dessus de lui en souriant, et lui dépeignit aussi la mort tragique et silencieuse du vieux Mosaku. Et il déclara: « Ce fut l'unique fois qu'éveillé ou endormi, j'ai vu une créature aussi belle que vous. C'était, bien entendu, un être surnaturel. J'en avais peur, très peur. Elle était si blanche. À vrai dire, je n'ai jamais pu déterminer si c'était un rêve que j'avais fait ou si j'avais vraiment vu la femme de la neige. » À ces mots, Oyuki rejeta loin d'elle son ouvrage et se dressa menaçante. Puis en se penchant au-dessus de son mari assis à terre, elle lui cria: « C'est moi que vous avez vu, moi, Oyuki. Je vous avais prévenu que je vous tuerais si vous parliez à qui que ce fût de ce que vous aviez vu ce soir d'orage. Je tiendrai ma parole à l'instant même, si ce n'était à cause des enfants qui dorment dans la pièce voisine. Tâchez de prendre bien soin d'eux, car s'ils ont jamais la moindre occasion de se plaindre de vous, je vous traiterai comme vous le méritez. » Comme elle criait, sa voix allait en s'affaiblissant et devint pareille à la plainte du vent. Oyuki se dissipa en une buée blanche, fine et étincelante, qui s'éleva en spirale vers les poutres enfumées du plafond et disparut en vacillant par le trou pour la fumée. On ne l'a jamais plus revue.
Cette émission est une rediffusion.
On ne l'a jamais plus revu, dit le conteur, mais le lecteur, lui, eh bien, il la voit à plusieurs reprises dans le recueil Benjamin Lacombe, hein, page 13, hein, dès le début du recueil, page 95 de face, avec ses longs cheveux blancs qui flottent dans l'air, deux pages plus loin de dos, cette fois-ci, avec à la main une ombrelle. C'est d'ailleurs cette image-là qui referme aussi l'album. Comment est-ce que vous avez imaginé ce personnage, Benjamin Lacombe? Comment est-ce que vous avez procédé? Vous êtes parti des mots de Lafcadio Hearn? Vous avez ensuite ouvert votre imaginaire? Comment vous avez construit tout ça?
Alors, je pars toujours évidemment du texte, des mots, et j'essaye de jamais le paraphraser. C'est-à-dire
donc, ce n'est pas seulement un travail d'illustration, c'est plus que cela.
J'essaye d'apporter quelque chose par l'image, une autre narration, d'autres éléments qui ne sont pas forcément décrits dans le texte. Je m'intéresse aussi aux différentes représentations qu'il y a pu y avoir du personnage à travers les estampes. Je fais référence à d'autres représentations qu'on a pu avoir, ou même d'autres esprits. Là, c'est New Ray qui peuvent avoir justement ces dames à l'ombrelle, etc., pour évoquer en fait quelque chose, voilà, qui va par-delà le texte, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure et comme l'a dit Mathias, c'est-à-dire que il a fait un travail d'auteur, Lafcadio Hearn. Il est parti de plusieurs sources et il a créé des histoires. Et lorsqu'on est illustrateur, on fait un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on part comme ça de références picturales, aussi de documentation de l'époque, et on apporte sa propre voix en fait, quelque chose qui, il me semble, pour bien illustrer, ne doit surtout pas, doit compléter ou amener autre chose au texte, surtout pas bégayer.
Voilà, il y a toute une bibliographie à la fin de l'album dans lesquelles on peut peut-être retrouver, si on s'y connaît un tout petit peu, les références. Vous y connaissez beaucoup, Mathias Hayek. Vous en avez repéré pas mal, là, juste en tournant les pages du recueil?
Oui, il y a énormément de références importantes, hein, bien sûr, sur d'abord la biographie liée à Hearn lui-même, hein, qui est tout à fait conséquente, et puis donc un certain nombre de rappels sur la mise en scène des yokai dans d'autres types d'œuvres. Qu'on va retrouver, je pense, encore tout à l'heure.
Hein, mais alors, par exemple, là, le conte qui ouvre l'album, qui a un titre quasi shakespearien, Un songe d'un jour d'été, qui raconte l'histoire d'un pêcheur, et quand vous dessinez les poissons dans la mer, on se dit même inconsciemment, même si on n'a pas de référence précise en tête, Benjamin Lacombe, on se dit que vous jouez avec les codes de l'iconographie traditionnelle. On ne sait pas trop si c'est l'iconographie japonaise, asiatique dans son ensemble. Bon, la vague, la mer, on pense à Hokusai.
Hokusai, tout de suite.
Forcément.
Mais bon, alors qu'il n'est pas du tout le seul, en fait, à avoir stylisé les mers comme ça, parce que moi, je me suis beaucoup plus référé à Kuniyoshi, par exemple, pour faire cette scène comme ça de vague qui rappelle une estampe de Kuniyoshi, et également aussi pour ces carpe koi, en fait, que je dessine. Et la carpe koi, en fait, c'est un conte qui s'appelle Le songe d'un jour d'été, mais qui s'appelle aussi Urashimataro, selon en fait qui va le raconter, qui est vraiment un des contes les plus célèbres japonais. Et la carpe koi, en fait, elle apparaît dès la toute première image, en fait, avant en fait qu'on rentre réellement. Et c'est presque elle qui nous amène vers ce sentiment de fiction et ce moment où en fait on bascule vers un monde qui n'est plus tout à fait la réalité ou pas, hein, puisque c'est ça le propre des yokai. Tout à l'heure, c'est ce qu'il disait, c'est vrai que la différence, nous, on a cette idée des revenants comme malfaisants, comme étant des êtres qui vont se venger ou qui veulent appeler à quelque chose, ce qui n'est pas du tout toujours le cas, en fait, avec les yurei, avec les yokai. Ils font partie du quotidien, ils sont parfois, ils entrent pas, en fait, ils prennent possession d'objets, en fait, et c'est un petit peu, on pourrait le relier à la culture mexicaine aussi là-dessus, c'est-à-dire il y a un principe de vie avec en fait les esprits, pas en bataille contre les esprits.
C'est-à-dire que le fantastique accompagne réellement non seulement l'imaginaire mais le quotidien des Japonais, Mathias Hayek.
Tout à fait, mais cet accompagnement n'est pas neutre. C'est-à-dire que, certes, on peut vivre en bonne intelligence, mais le risque existe. Et dès lors qu'on se frotte au non-humain, comme le personnage principal du Lashima, donc le pêcheur Taro, l'apprend à ses dépens au moment de son retour, après cet exil volontaire dans le palais du dragon, eh bien, il ouvre cette boîte. Certes, il trahit, mais en même temps, il a frayé avec les non-humains. C'est une histoire parmi d'autres. Il y a tout un tas d'histoires du même type qui, finalement, dénotent de ce risque qui existe à côtoyer la non-humanité au risque de perdre son humanité propre.
Mais c'est-à-dire que les yokai...
Il y a ce conte-là, on peut le rapprocher d'Ondine, par exemple, oui, chez nous. Avec ce même
sur
principe...
Sur vous avez travaillé.
J'ai
aussi
travaillé sur le même principe de se dire que la trahison amène la perte, en fait, de celui qui trahit. C'est la même chose, d'ailleurs, avec l'esprit aquatique, les courants, en fait cet esprit aussi du courant quand on va à contre-courant, et il y a cette idée aussi de dire que les yokai, dans le texte que vous aviez lu sur Yukiona, il y a ce principe de bien se comporter. Quelque part, si il élève mal les enfants, elle va revenir. Si en fait, ce sont presque des contes qui aide les gens à vivre selon, entre guillemets, un bon ordre. Et ces personnages viennent bouleverser cet ordre et les rappeler, en fait, aux hommes à vivre.
Oui, en préparant cette émission, je suis tombé, par exemple, sur le kappa, qui est donc un yokai, un diablotin d'os. Ça rappelle un petit peu ce que vient d'expliquer Benjamin Lacombe. C'est-à-dire que selon qu'on est poli ou pas avec lui, il se montre plus ou moins gentil avec l'être humain, Mathias Sayek. Alors, est-ce que, en feuilletant l'album, on a vraiment l'impression qu'il y a des yokai complètement différents, quoi. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des animaux, il y a même des objets, quoi. Il y a des ustensiles de cuisine, par exemple, qui peuvent se révéler être ou devenir, je sais pas ce qu'il faut dire d'ailleurs, des yokai.
Je pense que devenir, c'est la bonne idée. C'est-à-dire que tout dépend, en fait, où on place le curseur. Il y a plusieurs manières de voir le yokai. Effectivement, ça peut être un animal, ça peut être un être humain, ça peut être un objet, mais ils ont souvent un dénominateur commun. C'est soit qu'ils sont très vieux, soit qu'ils ont passé beaucoup de temps au même endroit. Bref, qu'ils ont pu accumuler quelque chose. Alors, on peut le voir d'une manière un peu cynisante ou à la chinoise. C'est souvent comme ça que je le présente. C'est l'accumulation de ce qu'on pourrait appeler l'énergie yin. Vous savez, il y a les deux principes yin et yang.
Oui.
Et donc, le yin, c'est cet aspect plutôt froid, etc., un peu ténébreux. Et plus il s'accumule, plus il peut doter les choses de propriétés, de transformation. Et donc, les objets aussi, finalement, à la fois par l'attachement qu'on y voue et par leur ancienneté, eh bien, ils deviennent comme ça capables de vouloir se transformer en autre chose, et donc en l'occurrence en yokai.
Voilà, on est en plus dans la collection Métamorphose des éditions Soleil, donc là évidemment c'est une aubaine pour l'illustrateur que vous êtes, Benjamin Lacombe. Ça permet aussi, j'imagine, un peu de vous amuser. Mathias Sayek, les yokai, ils peuvent apparaître partout à n'importe quel moment dans l'existence d'un être humain?
Oui et non, on peut plutôt voir un certain nombre d'endroits plus propices que d'autres à la rencontre. Alors, certains ethnologues disent par exemple que ce sont autour des ponts ou des lieux comme ça, des croisements que la rencontre peut s'effectuer, mais ça peut aussi tout simplement être chez soi. Yokai vient dans la maison et par exemple vient frapper à la porte. Ça n'est pas forcément l'extérieur.
Mais il y a une porte, un pont, là aussi on est vraiment à la frontière, et souvent
il y a aussi cette idée,
c'est dans ce genre de décor là que vous placez au personnage.
Il y a aussi une temporalité souvent, c'est-à-dire ça, ils apparaissent quand même souvent la nuit
ou en fin
au crépuscule, et c'est aussi très lié à la brume. Et d'ailleurs, c'est amusant de constater que les deux grands pays de fantômes ou d'esprits ou de yokai, ce sont des pays très brumeux, c'est-à-dire c'est l'Angleterre et c'est le Japon. Et cette espèce d'état comme ça de
d'entre
brume,
deux, voilà, quoi, d'entre deux, à la fois temporel et géographique.
C'est ce qui amène en fait à l'espèce d'apparition d'être surnaturel.
Mais vos atmosphères à vous, Benjamin Lacombe, elles sont parfois un peu inquiétante, mais pas trop, quoi. On a un peu l'impression que vous jouez en permanence avec ce curseur-là. Où est-ce que vous décidez justement de le placer? Comment vous dosez justement le caractère à la fois positif et négatif, sans revenir au yin et yang?
Mais
il y a vraiment
ce souci
d'équilibre, quoi.
C'est toujours ça, c'est ce souci d'équilibre et cette idée de ne pas tomber ni de basculer d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire ni totalement doux et ni totalement comment dire, enfin tout à fait inquiétant ou dans l'horreur ou dans le gore. C'est pas ça en fait. On est dans quelque chose entre deux, effectivement, comme sur un fil. Et c'est ça qui fait toute la beauté en fait de la chose.
Mathias Hayek, un exemple, par exemple, le Bakou qu'on retrouve précisément dans le recueil. Le Bakou, c'est le mangeur de rêves. Bon, c'est un yokai bienveillant ou malveillant ?
Tout dépend si le rêve est bon ou pas.
Ah, parce qu'il mange à la fois le cauchemar et le rêve merveilleux.
Donc, si c'est un cauchemar, effectivement, on peut être content que le Bakou soit venu le dévorer. Hein, c'est un genre de tamanoir fantastique qui vient comme ça manger les rêves des gens. En revanche, si c'est un beau rêve, eh bien, ça peut être dramatique de le perdre ainsi.
Mais vous, Benjamin Lacombe, vous le représentez, ce Bakou, en squelette géant, qui se penche sur un tout petit personnage. Hein, c'est vraiment une double page, c'est vraiment une image magistrale, si je veux dire. C'est d'ailleurs une posture que l'on retrouve, quelques pages plus loin, avec...
Pas tout à fait. Mais là, c'est une référence à un autre yokai, du grand squelette, le Gashaduro.
Gashadokuro.
Et qui avait été représenté, justement, aussi, encore une fois, bon là, on recite Kuniyoshi, mais par Kuniyoshi, et c'était une double référence à ça, parce qu'effectivement, il y a cette idée de la mort, du grand, on pourrait presque dire de la faucheuse, comme ça, qui apparaît. Et c'est vraiment, ce que je voulais faire apparaître. Et c'est une composition vraiment très classique, là, pour le coup, que j'ai fait, qu'on retrouve dans énormément d'estampes, mais c'est aussi ça. Graphiquement, on doit évoquer beaucoup de choses.
On est 20 pages plus loin dans l'histoire d'Ikiryu, l'histoire du magasin de porcelaine par la haine. Et c'est vrai que quand on regarde la composition de l'image, on a vraiment l'impression que ça se ressemble.
Non, à part le fait qu'ils viennent de gauche à droite, il n'y a pas grand chose qui ressemble, parce qu'il y en a une qui est en contre-plongée avec une perspective qu'on appelle isométrique, l'autre on est en plongée avec un système en fait circulaire qui fait beaucoup plus penser au cinéma. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup travaillé sur le flou, c'est une image qu'on a presque l'impression de voir comme prise d'une scène d'animation ou de cinéma. Dans l'autre, non, on a quelque chose de beaucoup plus composé, effectivement, entre le deux tiers, le un tiers. Enfin, ça n'a rien à voir.
C'est vraiment les postures des personnages. Moi, c'est ça qui m'a fait rapprocher les deux images.
Ah ben, les deux ont peur.
Voilà,
ça, c'est
tout
vrai.
Simplement. Voilà, d'accord. Très bien. Parfaitement. Bon, en tout cas, graphiquement, parlant Mathias Hayek, est-ce que les yokai ont été extrêmement représentés dans l'iconographie japonaise? Vous évoquiez le Moyen-Âge tout à l'heure. C'est là qui sont apparus et qui ont déjà, dès le départ, été représentés.
Alors effectivement, on voit des représentations relativement tôt, dès le 13e ou le 14e siècle, mais bon, c'est surtout à partir du 17e que les choses s'accélèrent, et donc par exemple le squelette géant que vous citiez, donc là on est à l'époque d'Edo, donc presque au 20e siècle avec Kuniyoshi, qui représente donc ce squelette. Alors, c'est extrêmement intéressant parce que ça rappelle, et finalement le travail de Benjamin s'inscrit, je pense, dans cette lignée, ça rappelle l'importance des artistes dans la création, finalement, des yokai. Ce squelette géant, qu'il y a aussi l'invente de toute pièce à partir du texte sur lequel il se base, qui est une histoire de fantôme qui se passe au Moyen-Âge, dans laquelle une sorcière convoque des squelettes pour attaquer un personnage qui vient lui rendre visite dans son vieux château, qui est le château de son père, enfin bon, peu importe. Et Kuniyoshi, par son propre désir artistique, condense ces multiples squelettes en un seul pour augmenter l'impact de l'image. Et ensuite, on invente a posteriori ce Gashadokuro, qui serait donc ce grand squelette, etc., qui n'a pas d'existence en réalité avant les années 1960.
Et qui va réapparaître après. C'est ça qui est amusant. Et c'est pour ça qu'il faut pas hésiter à... Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas hésité à prendre des libertés, effectivement, à amener, parce que, malgré tout, il y avait quelques yurei qui étaient évoqués par l'Afcadio, mais il y en avait plein d'autres que j'avais envie de dessiner aussi, et que je fais apparaître dans des scènes que je pensais opportunes, en fait, et qui pouvaient me le permettre. Parce qu'effectivement, ces libertés d'interprétation du texte, elles étaient déjà faites de l'époque, en fait, effectivement, et en particulier aussi au 19e, où il y a eu beaucoup de libertés qui étaient faites. Ce sont, en fait, presque comme des grands thèmes, en fait, ces histoires-là, qui sont réinterprétées comme ça, à mesure que les artistes s'y intéressent, et qui permettent comme presque une interprétation musicale, en fait. C'est-à-dire, chacun, il va y apporter presque son tempo, sa rythmique.
Mais est-ce qu'il y a réellement des balises comme ça, des invariants qu'on peut retrouver d'un artiste à un autre, Mathias Hayek, ou est-ce que chacun, en fonction de sa culture, de son époque, de son imaginaire, crée ou recrée un yokai de toute pièce?
C'est une accumulation. C'est une accumulation à partir d'un fond, et on voit très bien comment, au fil des œuvres, au fil des artistes, au fil des siècles, en fait, ces représentations, certaines évoluent, d'autres restent dans une forme de continuité. Ça commence véritablement au XVIIIe siècle avec un artiste qui s'appelle Toriyama Sekien, qui surfe sur la vague de l'encyclopédisme, qui isole, à partir d'un fond encyclopédique, uniquement les images de créatures fantastique, de créatures étranges, et c'est lui qui fixe les codes. Et ces codes sont ensuite repris par d'autres, jusqu'à une époque récente, Mizuki Shigeru, donc au Japon, qui reprend parfois mot pour mot, dans sa grammaire, les dessins de Sekien, mais qui d'autrefois les change intégralement à partir de sa propre expérience, ouais, de sa propre connaissance des légendes.
Mais alors, si je prends un yokai au hasard, enfin pas totalement au hasard parce que j'ai un peu bûché pour préparer l'émission quand même, si je prends un nakaname, par exemple, alors c'est très pratique un nakaname d'après ce que j'ai compris, parce que c'est un esprit qui lèche les baignoires trop sales, voilà, donc ce qui déjà est une petite porte à l'imagination. Ça ressemble à quoi un nakaname, Mathias Hayek? Est-ce que vous pouvez comme ça nous dire, bah oui, un nakaname, moi je peux le reconnaître sur une estampe, sur un dessin japonais?
Bah, je peux le reconnaître, encore une fois, parce que Sekien l'a représenté, Kuni aussi l'a représenté.
Alors, à quoi il ressemble?
C'est un genre de petit personnage, plutôt grimaçant, qui ressemble à un enfant, mais au teint un peu verdâtre, chez Kuni aussi en tout cas. Et surtout, donc, il y a des yeux assez mesquins, et qui a une langue qui pointe hors de sa bouche, dont il se sert pour nettoyer la crasse aka, puisque c'est ça dont il est question, et donc il lèche les poutres, il lèche le sol des différents objets de la maison.
Voilà, vous n'avez pas eu envie de le représenter, celui-ci?
J'ai eu envie d'en faire plein. D'ailleurs, c'est ce que je disais avant que commence l'émission, c'est que si ce livre marche bien, je ferai bien un deuxième volume, parce qu'il y a tellement, en fait, de personnages que j'aurais aimé pouvoir représenter, et c'est amusant parce que ce personnage-là, justement, il peut aller jusqu'à être presque une espèce de boule à l'intérieur d'un seau. En fait, tellement, en fait, la variante va découler. Et Mizuki, dont il parlait, c'est évidemment devenu lui-même une référence. Il est mort il y a finalement peu de temps, mais il a créé des encyclopédies de yokai, et c'est fascinant, en fait,
de voir l'anatomie extrêmement développée. C'est très très troublant.
Là, pour le coup, c'est vraiment l'œuvre d'une vie pour lui.
Cette émission est une rediffusion.
Alors, vous avez prouvé, Mathias Hayek, que vous saviez reconnaître les dessins. Est-ce que vous saviez aussi reconnaître le yokai à son bruit?
Alors, justement, c'est toute la création, le processus même de création du yokai qui part du phénomène. Et parmi les phénomènes possibles, on a le bruit. Et ça, je suppose que c'est un bruit peut-être de lavage,
ça se passe dans la forêt. Alors, donc ce sont les kodama
qui font du bruit dans les arbres.
Voilà, c'est un extrait du film d'Hayao Miyazaki, Princesse Mononoke, sorti en 1997 des studios Ghibli. Ils sont nombreux, les yokai, dans l'univers de Miyazaki, Mathias Hayek?
Oui, ils ne sont pas nombreux, ils sont même assez importants.
D'abord, Mononoke, bien sûr, c'est une version du mot yokai, c'est ce que j'ai lu, je ne sais pas si vous confirmez.
Je confirme que Mononoke est une appellation ancienne, de l'époque donc de Heian, entre le 8e et le 11e siècle, voire jusqu'au 12e, on va dire, des esprits, effectivement, qui peuvent prendre possession des gens.
Alors ça, c'est très étonnant, les Kodama, donc ces esprits de la forêt, je sais pas si vous avez vu Princesse Mononoke, forcément, ils sont tout blancs, avec des trous noirs à la place des yeux et de la bouche. On se dit, ça ressemble à des petits fantômes à l'occidental, quand on n'est pas très loin d'une sorte de mini Casper. On est très loin de vos dessins à vous, là, Benjamin Lacombe.
Non, puis ça peut ressembler aussi à des masques, même africains. Ça peut, enfin, quelque part, la représentation comme ça de l'esprit, c'est ça qui est fascinant de voir aussi qu'on est quand même à la fois dans quelque chose de très codifié dans la société japonaise, et en même temps, effectivement, il y a des traceurs qu'on retrouve à travers toutes les cultures.
Donc il y a des ponts comme ça entre l'imaginaire occidental et oriental, même extrême oriental, Mathias Hayek.
Oui, je pense qu'on peut faire des ponts, du moins dans ces aspects qui sont les plus... Alors, je n'aime pas tellement le mot animiste, mais on parle quand même avec les Kodama d'esprit de la nature. Quand vous voulez représenter l'esprit d'une branche ou l'esprit d'un arbre, bon, finalement, on peut rester assez simple dans la manière de les représenter.
C'est le Miyazaki où il y a le plus de yokai, c'est vraiment le voyage de Chihiro. Là, il y en a une tripotée.
Oui, sur des bateaux, ils sont en groupe, même parfois.
Voilà, hein, c'est fascinant. Et c'est, par exemple, je sais que pas mal d'enfants, en tout cas, qui viennent me voir depuis que j'ai sorti le livre, me parlent souvent de ça, parce que effectivement, ils ne connaissent pas les histoires de tous ces personnages, et on sent derrière chacun de ces personnages et de ces designs qui sont très singuliers, surtout pour nous occidentaux, on sent toute une histoire et un potentiel.
Alors, on entendait le bruit des Kodama. Moi, j'ai appris, parce que j'ai vraiment bûché en préparant cette émission, qu'il y avait un yokai qui s'appelle, alors là, je pense que je vais mal prononcer son nom, mais vous allez me corriger, Mathias Hayek, le Azuki Arai. Parfait. Bah, vraiment, c'est formidable. Je pensais que j'avais encore beaucoup de progrès à faire, mais je suis sur la bonne voie. Alors, le Azuki Arai, il personnifie un bruit qui est encore plus étrange, puisque son nom signifie le laveur de haricots rouges. Alors, c'est extraordinaire, ça.
Absolument.
C'est-à-dire que c'est le bruit que l'on fait en lavant des haricots rouges quand ils s'entrechoquent.
C'est ça. Selon les régions, ce sont pas forcément des haricots rouges. En tout cas, ça peut être n'importe quel type de haricots, des haricots de soja. C'est souvent du riz également. On a le kometogi, qui est la même chose, en fait, que l'azuki arai. C'est-à-dire que on cherche à trouver la source d'un bruit étrange qu'on identifie comme évoquant le bruit que font des petits légumes qui s'entrechoquent quand on les rince. Hein, et on en vient à se dire qu'il doit y avoir quelque chose qui produit ce bruit. On lui donne le nom, le laveur de haricots, c'est le nom qu'on donne à la créature qu'on imagine être responsable du bruit qu'on rapproche du lavage de haricots.
Mais est-ce que ça signifie, Mathias Hayek, qu'un yokai, c'est une façon de personnifier et donc de personnaliser l'insolite, de personnaliser l'étrange, et donc c'est peut-être aussi une façon de se protéger, quoi. Le yokai comme une forme de bouclier, de béquille face à l'étrange et donc à la peur.
C'est plus qu'un bouclier, c'est-à-dire que pourquoi finalement on veut savoir qui produit ce bruit insolite, c'est parce qu'on non seulement on le redoute, mais sans doute parce qu'on va l'associer à des événements déplaisants qu'on a pu expérimenter après avoir entendu ce bruit insolite. Donc on cherche surtout une cause au problème potentiel que l'on va rencontrer. Le yokai, c'est finalement cette cause possible des malheurs humains.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Avec Mathias Hayek, maître de conférence en études japonaises à l'université Paris Diderot, et Benjamin Lacombe pour son album Histoire de fantômes du Japon, avec ses 10 contes racontés par Lafcadio Hearn et traduits par Marc Loger. L'album est paru, je le rappelle, dans la collection Métamorphose des éditions Soleil, et c'est vraiment un très très bel objet, comme souvent. Avec vous, je voudrais qu'on dise un petit mot sur la couverture. Comment est-ce que vous l'avez construite, Benjamin Lacombe?
En fait, c'est vrai qu'elle est un peu singulière parce qu'elle se décompose en deux parties. Une partie qui va être imprimée, mate, où on voit le visage d'un yurei coupé en deux comme ça. Là, qui est vraiment une interprétation à moi du fantôme à la tête coupée et qui est très loin des représentations habituelles, duquel s'échappe une nuée de morphos, de papillons. Et de l'autre côté, en fait, on voit une toile qui est un petit peu irisée avec un fer à chaud métallisé bleu qui peut se voir sous plusieurs angles. C'est-à-dire que vraiment, on peut voir la totalité des dessins et de l'écriture uniquement en bougeant, en fait, en se décalant un petit peu, en déplaçant, en fait, le regard un petit peu d'ailleurs dans l'esprit des fantômes, des yokai, c'est-à-dire qu'effectivement ce sont des pas de côté, des passages, des choses entre deux, et donc cette couverture nous oblige à faire ce même mouvement au niveau visuel. C'est la raison pour laquelle je l'ai composé de cette façon.
Alors quel regard est-ce que vous portez justement sur cette couverture, et singulièrement sur ce dessin de femme avec ce visage effectivement coupé en deux, Mathias Hayek, dans le sens de la hauteur, et dont s'échappe effectivement cette nuée de papillons bleus? Ça vous évoque tout de suite un conte, une histoire? Qu'est-ce que ça suscite chez vous?
Pas forcément, c'est-à-dire que ça me fait penser d'abord à ce fameux rêve du papillon, hein, donc c'est dans le Chuang Tzu, hein, c'est où on pense qu'on est un papillon, est-ce qu'on est un homme ou est-ce qu'on est un papillon qui rêve? Ça me fait aussi penser aux âmes qui s'échappent, hein. Alors est-ce qu'elle a dévoré avant des êtres humains dont les âmes s'échapperaient d'elle sous la forme de papillon? De manière plus triviale, ce visage coupé en deux, ça me fait penser à Goldorak. Ça n'a rien à voir.
Gonagai, s'est-il invité dans le recueil?
J'avoue que non, mais c'est ça la force aussi.
Vous êtes un grand lecteur de manga, quand même.
Oui, hein. Mais c'est ça la grande force aussi des images, c'est qu'elles peuvent évoquer chez chacun, en fait, beaucoup, beaucoup de choses. On place comme ça des éléments, c'est aussi ça qui fait la force d'une image, c'est le pouvoir d'évocation, en fait, qu'elle va amener. C'est vrai que l'idée de l'âme qui s'échappe, c'est exactement ce que je voulais. C'est un moment, d'ailleurs, dans l'histoire de la joueuse de Koto, où effectivement elle est trahie et son âme en fait s'échappe, et c'est ça un petit peu, elle est comme son cœur est meurtri, coupé en deux, et donc là c'est carrément tout son visage en fait qui est déliquescent comme ça, et c'est ça que je voulais exprimer. Mais si on veut y voir Goldorak et un passage, mais ma foi on peut le faire, hein, y a absolument aucun souci.
Aucune interdiction, loin c'est de là. Moi ce qui me frappe dans cette image, il y a plein de choses qui me frappent, mais d'abord c'est les yeux, quoi. C'est très étonnant, ces yeux qui sont très, très allongés, mais dans le sens horizontal. Et puis, ce sont des yeux très morts, finalement.
Parce que parle d'un fantôme, quand même.
Donc, tout simplement.
C'est que j'ai bien fait mon travail.
Voilà. Et puis, il y a aussi ces papillons bleus. Il y a beaucoup d'insectes. Il y a beaucoup d'animaux, d'une façon générale, mais singulièrement des insectes dans cet album. Parce que là, on a parlé beaucoup de la couverture et des grandes planches. Mais sur l'ensemble de l'album, autour des textes, il y a énormément d'insectes.
Mais parce que le rapport aux insectes, à l'infiniment petit, aux détails, et en même temps, enfin, le macro, le micro, ce sont vraiment des principes des estampes. Ça, c'est tout à fait, et c'est très propre, en fait. Et nous, même dans la peinture française, on s'en est inspiré bien tard. Ça nous intéressait pas au départ, les insectes. Et c'est vrai qu'avec le japonisme, c'est arrivé. Et on s'y est un petit peu intéressé, alors que ça a toujours été d'un grand intérêt, justement, mais depuis des temps immémoriaux. Et c'est cette idée aussi, de l'âme que peuvent avoir certains, que peuvent prendre, qui peuvent être pris possession de certains animaux, et même les plus petits, même les plus insignifiants. Et l'importance, en fait, ça c'est quand même une donnée philosophique très intéressante que ça nous apprend. Et même cette idée, moi, ce qui me fascine dans les symbômes des papillons, et qu'on retrouve dans plein de légendes, moi j'avais fait un livre qui s'appelait Les Amants Papillons pour ça, cette idée que la liberté qu'on peut avoir en étant un papillon, en vol temps comme ça, même si ce n'est que pour une journée, en fait, vaut la peine d'être vécu. Ça, c'est quelque chose de très beau et qu'on retrouve vraiment dans la culture asiatique.
Mathias Hayek, justement, sur l'importance des insectes dans l'imaginaire et dans le bestiaire japonais.
Tout à fait. Donc, on a cette notion de mushi en japonais, hein, qui est tout à fait importante. On a l'insecte du ventre, l'insecte de différentes parties du corps, qui désigne finalement aussi une sorte de sentiment, hein, d'impression. On a l'insecte qui est mal placé. Ça veut dire qu'on est en colère, etc. Donc, il y a cette idée que le corps humain est finalement habité de petites entités qui participe à son contrôle également. Hein.
Ce qui est fou, c'est que excusez-moi, je voulais pas. Mais ce qui est vrai, parce que finalement, c'est des intuitions, mais on est rempli de petites créatures à l'intérieur de, et qui la contrôlent, les microbes. On parle de vers aussi. Et c'est ça qui est fou, c'est cette espèce d'intelligence, de l'intuition qu'avaient certains principes effectivement, et certains contes, même au niveau du métabolisme, qu'on découvre, mais des milliers d'années après, c'est fascinant, en fait, dans l'art et dans la culture asiatique.
Alors, ce n'est pas un insecte, mais c'est un tout petit dessin que l'on retrouve à la fin de chacun des chapitres, à la fin de chacune des histoires de ce recueil, c'est quoi ce
petit dessin? Ça veut dire
des idéogrammes.
Les idéogrammes veulent dire fin, c'est tout, c'est la fin.
C'est la fin, mais qui évidemment est stylisé. Donc le mot fin, stylisé par Benjamin Lacombe, on le retrouve donc à la fin de cette autre histoire dont on va entendre un court extrait, le gamin qui dessinait des chats. Mmh. Alors on a dit à ce jeune garçon qui est au cœur de ce conte d'éviter les grands espaces la nuit et de rechercher les petits. C'est une phrase dont il a un petit peu de mal à comprendre le sens. Et voici qu'un beau jour, ou plutôt qu'une belle nuit, il se retrouve au cœur d'un temple. Nous sommes page 56 de votre livre.
Le temple était très grand, il était seul, et comme il songeait à ses paroles, bien qu'il n'arrivât pas à les comprendre, il commença d'éprouver une certaine crainte. Il résolut donc de chercher un endroit où il pût dormir. À la fin, il découvrit un petit réduit où il s'enferma. Puis il s'étendit et bientôt il s'endormit. Très tard, au milieu de la nuit, il fut réveillé par un vacarme effroyable, où se mêlaient des bruits de lutte et des cris perçants. C'était si affreux qu'il n'osa même pas regarder à travers une fente de la porte du petit réduit pour voir ce qui se passait. Il demeura immobile en retenant son souffle de terreur. La lumière s'éteignit, mais les bruits affreux continuèrent et devinrent de plus en plus effroyables, et tout le temple se mit à trembler. Puis, après un long moment, le silence régna de nouveau, mais le gamin avait toujours peur de bouger. Il ne remua que lorsque la clarté du soleil matinal brilla à travers les fentes de la petite porte. Alors, il sortit très prudemment de sa cachette et jeta des regards autour de lui. Il vit que tout le parquet du temple était couvert de sang. Et il aperçut, étendu mort au milieu de ce sang, un rat énorme, un rat monstrueux, un rat démon, plus grand qu'une vache. Mais qui avait donc bien pu le tuer ? Il ne voyait ni homme, ni aucune bête vivante. Tout à coup, le gamin remarqua que les gueules de tous les chats qu'il avait dessinés la veille au soir étaient rouges et souillées de sang. Alors, il se rendit compte que le démon avait été tué par les chats qu'il avait dessinés. Et il comprit, pour la première fois, pourquoi le vieux prêtre lui avait dit dans sa sagesse « Évitez les grands espaces la nuit, recherchez les petits ». Le gamin devint un artiste très célèbre, et l'on voit encore aujourd'hui au Japon certains des chats qu'il dessina.
Ouais, vous les avez dessinés vous-même aussi, hein, ces chats Benjamin Lacombe, avec le sang aux commissures des lèvres. Il y en a d'ailleurs d'autres, hein, des personnages, pas seulement des chats, hein, qui sont représentés de cette façon-là, animaux ou humains, donc des créatures au visage comme ça, taché de sang. C'est assez étrange quand on regarde tout ça, en tout cas avec mon œil à moi, c'est que on est vraiment aux confins de la beauté, du magnifique et de l'horreur. Comment vous avez justement dosé les deux?
Ah, là moi, encore, on est dans le binaire. Hein. Oui, mais c'est ça qui m'intéresse vraiment. C'est pour moi, c'est là que qu'on c'est un petit peu comme chez Bruegel, c'est-à-dire c'est ça qui m'intéresse, c'est arriver à créer du beau avec ce qu'on pourrait associer à la laideur, à la répulsion, et arriver à créer quelque chose. C'est pour moi, c'est là qu'on arrive au sublime, c'est-à-dire à arriver vraiment à et c'est aussi des principes effectivement qu'on retrouve une fois de plus dans les estampes. Là, c'est une référence encore une fois. Il n'y a pas que Kuniyoshi, hein, il y a Kawase et Asui que j'ai cité graphiquement, mais là c'est encore Kuniyoshi, mais c'est voilà le mystère. Mais pourquoi j'ai cité Kuniyoshi? Parce que c'était un dessinateur de chats extraordinaire. Il a dessiné des tas d'estampes. Et pour moi, le gamin qui dessinait les chats, c'était lui. Et donc, c'est pour ça que je le cite aussi graphiquement dans cette histoire, parce qu'en fait, c'est aussi une façon de tirer une référence et de parler de ces grands artistes et qui ont sublimé les choses laides. Et on retrouve d'ailleurs, moi, je m'intéresse aussi beaucoup à la figure du monstre en général et aux différents, aux freaks. Je cite très souvent Todd Brownings et des choses comme ça. C'est des choses aussi qui intéressent énormément les Japonais qui aiment dessiner les deux choses, c'est-à-dire l'incroyable beauté des femmes qu'on représente d'ailleurs d'une manière très codifiée, souvent de la même façon, et en même temps l'incroyable variété et une certaine beauté dans la laideur, dans le monstrueux.
Oui, on est vraiment dans ce côté très binaire, très dual, très contrasté.
Je trouve pas ça binaire.
On est sur la frontière, si vous voulez, entre le bien et le mal, entre le beau et le laid. Ça, c'est vraiment ça aussi la culture japonaise, Mathias Saïk.
Je ne sais pas si c'est toute la culture japonaise, mais cette culture des yokai, en tout cas, elle participe effectivement de cette ambivalence entre le beau et le laid jusqu'à aujourd'hui. Les personnages, les mascottes qu'on appelle kimo kawaii, donc elles sont à la fois repoussantes, kimoi, et adorables, kawaii. Elles ont cette double qualité hein, de l'horreur et de l'agréable.
Voilà, le générique du jeu vidéo Yo-Kai Watch de Nintendo. Vous voyez, on a un petit peu changé d'univers, mais on reste dans le même monde, puisque ce jeu vidéo met en scène des yokai. Ils sont toujours très présents de la culture pop, de la culture populaire japonaise, les yokai, Mathias Saïk.
En fait, je pense qu'ils y sont revenus. Hein. Ils en avaient peut-être un peu disparu à la fin des années 80. Ils ont commencé à revenir avec le jeu Pokémon, mais qui était plutôt une vision naturaliste hein, des yokai, proche finalement de celle de l'époque d'Edo, et surtout positive. Dynamique, on est dans les années 90. Je trouve que Yo-Kai Watch, c'est quelque chose de beaucoup plus triste dans son principe, hein, parce que finalement, ces yokai sont reconvoqués comme étant de nouveau la cause des troubles, et notamment, là, en l'occurrence, des troubles psychologiques de l'entourage du héros.
Alors, pas de jeu vidéo caché dans la couverture du recueil Benjamin Lacan, mais à la fin, il y a des jeux inspirés, cette fois-ci, de jeux beaucoup plus anciens que les jeux vidéo. Vous êtes donc aussi un créateur de jeux.
Non, j'ai repris des jeux que j'ai pu trouver justement et que j'ai juste redessiné. Et c'était l'idée de montrer que la majorité des fois, les yokai apparaissaient justement plus que dans des histoires, mais dans des jeux, à travers des... effectivement, plus tard, dans des publicités. Et c'est comme ça, en fait, qu'on avait en fait les premiers les premiers contacts en fait avec les yokai et c'est marrant parce qu'on parlait aussi de les yokai par exemple dans le manga ils ont toujours été là en fait, puisque il y avait Mizuki mais il y avait par exemple Rumiko Takahashi qui va être à Angoulême là
Absolument,
cette année
oui.
et qui a beaucoup travaillé autour des yokai et qui les a mis en fait dans son travail dans son univers moi c'était d'ailleurs une des premières fois que j'avais découvert en fait les yokai, c'était à travers Rumiko Takahashi.
Oui, c'est vrai qu'on est obligé de penser aussi au manga quand on feuillette les pages de ce recueil. Là, j'ai devant moi là justement un plateau de jeux, hein, donc dessiné par Benjamin Lacombe. Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est une sorte de jeu de loi à la japonaise, Mathias Saïk ?
Exactement, hein, c'est ce qu'on appelle un sugoroku. Donc c'est un jeu de loi. Ça se joue avec des dés. Et bon, je crois que la règle adaptée.
Elle a été bien adaptée.
Elle a été un peu adaptée.
À simplifier parce que elles étaient trop complexes.
Voilà.
En plus, on était sur deux périodes au niveau des idéogrammes. J'avais beaucoup de mal à trouver des gens qui pouvaient me les traduire parfaitement. Parce que ce que j'ai appris, en tout cas en faisant ce recueil, c'est que finalement, les idéogrammes ne changeaient pas au niveau de leurs mots, mais de leur façon d'être écrite, c'est-à-dire la graphie qui changeait en fait à travers le temps. Et certains idéogrammes ne peuvent pas être déchiffrés par des personnes qui ne sont pas spécialistes en fait de la période. Donc, ce qui posait énormément de problèmes parce qu'il y avait des parties en fait qui étaient très 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 rapidement inscrites que j'ai essayé de refaire, mais que je n'arrivais pas à trouver. Donc, on a simplifié les règles de manière à ce que voilà, on puisse y jouer quand même, mais on n'a pas toute la subtilité. Mais si on est un spécialiste comme monsieur Hayek, là peut-être qu'on peut y jouer avec encore plus de connaissances.
Eh bien, acceptons-en l'augure. Merci beaucoup à tous les deux, Mathias Hayek, maître de conférence en études japonaises à l'université Paris Diderot, Benjamin Lacombe, histoire de fantômes du Japon de Lafcadio Hearn, superbe ouvrage de la collection Métamorphose des éditions Soleil.
On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Dans un instant, l'info sur RFI, et vous m'en direz des nouvelles.
Tout à l'heure sur...